La marquise de Thélème ou les effets du libertinage. Depuis environ 18 mois, le marquis de Thélème, homme d'une très bonne maison, mais peu opulent, venait d'épouser à Poitiers, sa patrie, l'une des plus belles et des plus chères héritières de la province. Nul ménage n'était plus uni. L'aisance, la concorde, l'urbanité, la confiance réciproque, l'estime et l'amour le plus tendre, resserraient chaque jour les nœuds touchants de ces deux époux. On ne les voyait point sans admiration, on ne les fréquentait point sans respect. Mais ce n'est pas sans raison qu'on a peint le maître des lieux entre deux vases énormes dont l'un est rempli de mots et l'autre de prospérité. Sa main, dit-on, verse toujours pour ce pur ce qu'elle prend dans le premier vase. Et répand-elle un peu du second, ce n'est jamais sans le mélanger. En 6 semaines, une maladie épidémique fait perdre à la jeune marquise tous ses parents. Un inconnu survient, il se déclare frère aîné de Madame de Thélème, il est protégé, il a des amis, et la fortune de Monsieur de Thélème, presque entièrement fondée sur la dot de sa femme, disparaissant en une minute, réduite à l'adversité la plus affreuse, l'une des plus brillantes maisons de la province. Rien de plus aisé pourtant que de revenir contre un arrêt aussi injuste. Il s'agissait que de paraître et de solliciter. Madame de Thélème avait eu effectivement un frère autrefois, mais ce frère, très certainement tué dans un duel, devait assurément reparaître. L'imposteur soutenait bien l'histoire du duel, mais il assurait n'avoir été que blessé. Il prouvait que, pour se mettre à l'abri de la rigueur des lois, il s'était absenté quelques années, et qu'apprenant enfin la mort de son père, il avait reparu pour en recueillir la succession. Cette fable était absurde. Elle n'avait eu pour s'accréditer un instant que quelques sommes et beaucoup d'effronteries. Que faire pourtant dans une si cruelle circonstance? Monsieur de Thélème ne balança pas. Il réunit tout ce qu'il put trouver d'argent et décida sa femme à aller elle-même à Paris plaider cette importante affaire en assurant que rien ne déterminerait les gens dans ce pays comme les sollicitations d'une jolie femme. Cette jeune personne, timide et novice, n'ose d'abord se charger d'une entreprise aussi importante. Elle craint d'échouer. Que deviendra-t-elle si, après avoir dépensé à Paris le peu qui reste aux deux époux, elle est obligée de revenir sans gain de cause? Osera-t-elle se remontrer aux yeux d'un mari qu'elle adore, qu'elle se trouve avoir trompé sans qu'il y ait de sa faute, et qu'elle verra mourir de chagrin d'avoir pu songer à la prendre pour femme? Sa délicatesse lui suggère 20 moyens différents de celui qu'on lui propose. Elle va vendre le peu qui lui reste. Elle l'offre à son mari en faible dédommagement. Et elle viendra s'enfermer dans un couvent pour finir le reste de ses jours. Elle disparaîtra, on ne la reverra plus. Ou, si l'on veut, elle travaillera, elle gagnera sa vie et ira passer à son mari tout ce que ses talents pourront lui apporter. Aucun de ses partis, dicté bien moins par la sagesse que par le désespoir, ne plaît à M. de Thélème. Il déclare à sa femme qu'il faut partir, qu'il faut aller solliciter elle-même son procès, et ajoute d'un ton ferme qu'il faut bien plus, qu'il faut gagner. Vaincu par des instances si vives, par des prières enfin qui ressemblent trop à des ordres pour que la jeune veuve marquise puisse s'y tromper, elle part avec une femme de chambre nommée Flavie, d'environ 20 ans, d'une figure charmante et reconnue pour une fille d'esprit. Il arrive souvent qu'un gentilhomme de province, n'ayant jamais servi, assuré d'une existence agréable, ne tenant qu'à son nom et à ses biens, soit à Paris sans protection comme sans connaissance, et cela sans que sa considération en souffre parmi les compatriotes au milieu desquels il se trouve et qui sont accoutumés à le chérir et à le respecter. On pourrait la regarder comme chimérique, cette considération qui ne s'acquiert que dans l'antichambre des ministres. Elle n'est pas dans les mœurs de la nation, l'histoire d'un siècle ou deux tout au plus. On peut encore la traiter d'affaire de mode et la voir absolument du même œil que les grands bonnets et les grands chapeaux. Le cercle étroit des choses de luxe varie d'une saison à l'autre. Les situations, les manières de vivre, les grandes coutumes, en un mot, sont un peu plus longtemps à parcourir tous les points de la circonférence, mais elles finissent pourtant par changer aussi. Et cette révolution qu'annonce déjà l'ignorance, l'agromanie, n'est peut-être pas si éloignée que l'on croit en France. Le possesseur de grands fiefs finira par voir que ce n'est pas à Versailles qu'il est réellement puissant et que, confondu là ou avec des inférieurs qui souvent l'écrasent de leur luxe ou avec des supérieurs qui le ravalent autant qu'ils le peuvent, il n'y joue que le rôle d'un esclave pendant qu'il peut être souverain chez lui. Quoi qu'il en soit, le marquis de Thélème, nullement connu dans la capitale et ne voulant pas s'abaisser à demander des lettres de recommandation à l'intendant de sa province, imagina que sa femme, avec une jolie figure, un beau nom et de l'argent, avait tout ce qu'il fallait pour réussir. C'est en cet état de choses que la jeune marquise était arrivée où nous l'avons dit. Dès le lendemain, elle envoie chercher un procureur, elle lui raconte son affaire, elle lui avoue le peu de ressources qu'elle a du côté de production, des protections, mais elle promet de bien payer si on lui fait gagner un procès aussi juste et aussi important pour elle. L'adversaire de Madame de Thélème n'était plus à Paris. Content d'avoir réussi par ses fraudes, il était reparti pour le Poitou et s'occupait déjà de rentrer dans les biens qu'il prétendait lui appartenir. La classe opulente des libertins de Paris n'est jamais sans avoir des agents dans tous les états. L'ordre de procureur est pour elle bien moins à négliger qu'on ne pense une foule de veuves et d'orphelins tombant journellement dans leur filet. Quel parti n'y a-t-il pas à tirer pour un riche et débauché d'un mercure adroit dans cette confrérie? Par une fatalité bien singulière, Saint-Vérac, procureur de Madame de Thélème, était en même temps le conseiller Bonneau de M. de Fondor, l'un des plus riches travailleurs de la capitale. Il n'eut pas plutôt vu une jeune femme de 17 ans, de taille la plus leste et la plus agréable, possédant la bouche la plus fraîche, les yeux noirs les plus animés, les cheveux du monde les plus superbes, la plus belle gorge, la peau la plus douce et la plus blanche, les traits les plus délicats et l'ensemble, en un mot, le plus fascinant, touchant et le plus flatteur, qu'il courut prévenir son patron que Vénus même arrivait de Cythère pour visiter sans doute les états de son fils, ou pour quitter la métaphore, il lui confia naturellement que cette provinciale, facile à mettre à l'aumône en 8 jours, était un morceau délicieux, que le sort l'amenait à Paris que pour lui, et qu'à les gardes, son affaire, elle était sûre, et qu'après avoir visité avec elle tous les papiers, il était clair que le réclamateur de biens n'était qu'un imposteur. Il ne s'agissait que d'éclairer le Parlement pour qu'en un mois, Madame de Thelem se retrouva maîtresse de ce qu'on lui ravisait. « Voilà qui va le mieux du monde, » dit Fondor. « Mais il faut se bien conduire ici. Est-ce qu'il y a de mieux à faire, et, ce me semble, de commencer par soutirer de la jeune personne tout ce qui peut lui rester d'écu, se rendre pendant ce temps sourdement maître de sa réussite du procès, la lui faire voir comme impossible, la mettre au point d'être obligée de répartir le poignard dans le cœur. Et quand nous en serons là, vous me présenterez, vous m'annoncerez comme un homme en crédit. Je ferai mes offres. Si la belle est sévère, autant de gagner. Nous redéferons bientôt ce que nous aurons fait, et nous la renverrons par le dernier coche à son mari. Et si au contraire elle se rend, nous ferons nos dernières démarches. On lui fera gagner sa cause, et le dépens que nous obtiendrons, s'il y a lieu et que j'avancerai à la partie insolvable, la dédommageront de ce dont il faut, mon cher Saint-Vérac, que vous commenciez par vous emparer tout de suite, afin de préparer les voies. Car on ne fait rien d'une femme qui a de l'argent. La vertu de ces dames se règle assez communément sur l'état de la bourse. Elle n'est pas plutôt dégarnie qu'on les trouve plus douces que des agneaux. Tels étaient les principes de ce maltôtier, fait sans doute à de pareils traits. Accoutumé à ne devoir qu'à son vilain or, ce qu'un homme sensible ne doit tenir qu'à de l'amour. Il avait jugé les femmes d'après la position cruelle où il les avait apparemment réduites, et n'ayant jamais été à portée de connaître le cœur parce qu'il n'avait jamais été assez délicat ou assez aimable pour en enflammer aucun, il se vengeait en débrisant ce sexe adorable de n'avoir jamais su paraître à ses yeux qu'un objet de haine et de mépris. Fondor était déjà vieux, une figure ignoble, une tournure courte et carrée qui sentait le caissier du lieu, aimait des désirs encore très vifs et ne négligeant rien pour les assouvir sur le champ. Et tout s'arrangea sur le plan que venait de tracer le traitant, et dès le lendemain, Saint-Vérac commença à agir. Il fit sentir à Madame de Thelem les difficultés d'un pareil procès. De quelle protection pouvait-elle balancer celle de son adversaire? Il en avait beaucoup. C'était un cavalier charmant. Il l'avait connu pendant le séjour qu'il avait fait à Paris, quoiqu'il ne fût pas mêlé de ses affaires. Mais ce jeune homme l'avait intéressé toute la cour et toute la ville. Ses précautions, prétentions paraissaient inattaquables. Alors comment prétendre à le débouter? Ce procès-là serait ruineux d'ailleurs. Madame de Thelem y mangerait tout ce qui lui restait et finirait peut-être par être obligée de s'en retourner à pied dans sa province, près d'un mari qui sûrement la traiterait fort mal, ne voyant plus en elle qu'une femme qui l'avait ruinée. Peut-être vaudrait-il mieux que Madame de Thelem épargnât le peu d'argent qui lui restait et s'en retournât à Poitiers, sans seulement entamer une maudite affaire qui demandait des sommes immenses et des protections infinies. Notre intéressante héroïne versa des larmes pour toute réponse. Mais un homme que le malheur de porter une robe claire noire et de vivre des dissensions publiques s'attendrit jamais à ses larmes les plus belles femmes de France. On inonderait les pieds pour qu'il ne s'occupera pas moins de ses coquetteries, de son avarice ou de sa lubricité. C'est une cuirasse que cette comique jaquette. On ferait plutôt repleuvoir la manne du ciel qu'on ne trouverait une amonette dans aucun des malheureux individus qui ont le malheur de la porter, quel que soit le titre qui les décore. Cependant, madame, continua Saint-Vérac, si vous nous y obstinez, nous plaiderons, mais je ne vous réponds de rien. Confiez-moi d'abord l'état de vos fonds. Hélas, monsieur, répondit la marquise, tout ce que nous avons pu faire est 500 louis. Mon mari, qui a de fortune que la mienne, se trouve ruiné si je le suis, et cette somme heureusement formée de nos épargnes s'est trouvée tout ce que nous avions dans l'instant où nos revenus ont été saisis. 500 louis, dit Saint-Vérac en se levant et gagnant la porte. Cherchez parmi nos clercs, madame, quelqu'un qui veuille entreprendre une affaire pour 500 louis. Pour moi, qui ne vois pas même de quoi faire là les premières avances, vous trouverez bon que je ne m'en mêle pas. Même, monsieur, j'ai quelques bijoux. À combien vont-ils? Peut-être à une somme égale. Oui, en les achetant, mais à la moitié tout au plus, si vous vous rendez, vendez ici. Eh bien, comme c'est certain que tout y passera, défaites-vous sur le champ de ces babioles, afin que nous voyions ce que le tout ensemble peut nous donner. Après quelques difficultés, la marquise consentit, et l'on convint que dès le lendemain, joaillier viendrait s'arranger de ses bijoux. « Ceci convenu, dit le procureur, il faut maintenant, puisque vous vous rapportez entièrement à mes conseils, que vous commenciez à quitter le logement beaucoup trop magnifique pour votre situation. » Et lui indiquant en même temps un petit hôtel obscur, positivement en face de la maison de Florore. « Voilà, lui dit-il, où il faut vous aller loger. Je serai plus à portée de vous. Vous serez moins charmant et plus isolé, mais toutes ces choses sont nécessaires dans votre position. Il est hors de serait plus essentiel que dans les premiers temps de votre... Vous ne voyez absolument personne, ou tout au plus, que les gens nécessaires à notre entreprise, que je me chargerai de vous présenter moi-même. » Et ces recommandations faites, Saint-Vérac se retira en portant avec lui le léger acompte de 200 louis pour, disait-il, mettre ce qu'on appelle les fers au feu. Madame de Thélème, convaincue de rendre à son mari jour par jour le compte plus exact de sa conduite, ne manqua pas de lui écrire, dès le même soir, tout ce qui venait de se passer. Mais comme elle avait carte blanche sur tout, elle continua d'agir à sa guise, et pour se conformer aux intentions de celui qui la dirigeait, elle quitta l'hôtel brillant dans lequel elle était descendue et vint s'arranger le lendemain dans celui voisin de Fondor, où tout était déjà préparé pour la recevoir comme on avait dessein qu'elle le fût. L'appartement, très mesquin, qu'on lui donnait avait ses fenêtres positivement en face de celle du cabinet de Fondor, mais de manière à ce que, plongeant dans cet appartement, à moins qu'on en fermât les rideaux, il devenait impossible à l'âme de Thélème de cacher ses actions à celui qui l'examinerait des croisées du cabinet de votre financier. Et ce fut de là où le libertin la lorgna dès le premier jour tout à son aise, et de là où son cœur obscène s'enflamma de la passion la plus illicite qu'il eût encore éprouvée de sa vie. Mais comme ces effervescences de débauche méconnaissent la délicatesse du sentiment qu'il encense que l'objet qu'il adore, sacrifie tout à cette seule divinité, et croirait l'inconstance d'un crime, Flavie, seul et unique recours de la malheureuse marquise, Flavie, presque aussi bien que sa maîtresse, échauffa de même l'intempérance de ce vilain faune, et il crut non seulement pouvoir se satisfaire sans aucun danger, mais même que cette créature, séduite par lui, ne servirait qu'à hâter la défaite de l'autre. Et dès le lendemain, il se confia à Saint Vérac, et comme celui-ci ne trouva nul inconvénient à l'entreprise, on lança la maîtresse de l'hôtel garni sur la malheureuse Flavie, qui ne tenant point à une centaine d'écus, satisfit amplement le financier sitôt qu'il le voulut, et devint de ce moment-là l'un des plus fidèles esclaves de ses désirs. Dès qu'on la vit bien gagnée, on crut pouvoir lui confier le projet. Elle approuva, elle promit de le servir, et la malheureuse fut au point de jurer à fond d'or que si le procureur ne parvenait pas promptement à réduire sa maîtresse à l'état de misère où il la désirait, elle le volerait plutôt, afin d'avoir le plaisir de voir blanc. Fur dehors, ne vous imaginez pas que je fasse davantage. Et quoi, monsieur, n'avez-vous pas dit que vous feriez entrer mes fonds et que vous me soutiendriez dans mon procès? Oh, je peux dire beaucoup de choses sans en avoir vu. Et je dois me dédire de beaucoup après avoir vu. Est-il juste que je vous paye plus que vous ne valez? Blanc. Et un mouvement de désespoir affreux saisissait ici Madame de Thélème. « Madame, il y a tout plein de choses qui se disent avant que de jouir, et qu'on est bien loin de penser après. Cette main traîtresse de la jouissance arrache le voile du prestige et laisse l'objet dans une vérité qui lui est communément bien fatale. C'est mon enjeu, dis bien, qu'il me reste encore quelques... Blanc. Réussisse mieux. Blanc. Tout aussi peu ménagée et très trompée, enfin, sur le service qu'elle avait cru que Fondor rendrait à sa maîtresse, passait aux pieds de sa maîtresse le peu d'instants où on les laissait seuls et arrosait de ses larmes les genoux de cette jeune femme qu'elle avait si horriblement traitée, trahie. Elle avoua qu'elle avait été séduite et la voix en versant des larmes, bien amères. « Ce qui vient de vous arriver, madame, » dit-il en s'adressant à la marquise, « a dû vous paraître fort extraordinaire et pourtant que la chose du monde la plus simple. Venu à Paris sans crédit, sans ressources, sans protection, à peine âgée de 17 ans, une trop jolie figure, vous deviez nécessairement être dupée. » Ce n'est pas votre faute.